Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Je suis sommaire de cette émission, ça va être des livres, encore des livres et toujours des livres, et évidemment des romans noirs. Et puis une petite intervention de notre chroniqueur Jean-Marc Lahrer en première partie d'émission. Voilà, donc nous avons toujours vécu au château. Je ne parle pas de nous, évidemment. Ni toi, Jacques, ni moi. C'est le titre d'un roman de Shirley Jackson. C'est un livre qui est sorti en début d'automne, je crois. Oui, c'est à peu près ça, en Rivage Noir, donc il y a quelques mois. Et c'est traduit par Jean-Paul Gracias. Et d'abord, le début de l'histoire. Je m'appelle Mary Catherine Blackwood. J'ai 18 ans et je vis avec ma sœur, Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance, j'aurais pu naître loup-garou, car à main droite, comme à ma main gauche, l'index est aussi long que le majeur. Mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver. Je n'aime pas les chiens. Je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance et Richard Plantagenet. Et la manie de phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Ainsi se présente la narratrice, qui s'appelle Mary, donc. Elle a 18 ans, on vient de le dire. Elle vit avec sa sœur Constance, ça, je viens de le lire. Et puis il y a son oncle, un peu sénile, un peu grabataire, oncle Julian. Dans une belle demeure, une des plus cossues du petit village. Un petit village américain, certes, mais à l'atmosphère très très british. Et puis surtout, atmosphère que va savamment instiller, par petites touches doucement, Shirley Jackson, l'auteur de ce roman. Ainsi, tel un mélo ou plus encore, un feuilleton très 19e siècle, Constance et Mary sont orphelines. Après que toute leur famille ait été empoisonnée par du sucre à la mort au rat. Constance a été soupçonnée, emprisonnée, puis innocentée. Depuis, ils vivent avec leur oncle, je n'ai parlé, l'oncle Julian, je vous ai dit, un peu grabataire, en fait, ce sont les séquelles de l'empoisonnement. Et lui passe ses journées à refaire ce fameux jour où toute la famille a été décimée. La vie des deux sœurs est réglée comme du papier à musique. Lundi, on fait grand ménage. Mardi et jeudi, Mary s'aventure en village pour le ravitaillement. Et c'est certainement pas une balade de santé, car le village semble bien détester les deux filles. Alors, quand le cousin, autre dernier escapé de la famille, débarque et s'installe dans la chambre du père défunt, on ne sait trop si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise, ou une très mauvaise. Mais ce qu'on sent bien, c'est qu'un nouveau drame est en train de planer sur la famille Blackwood. De la première page, dont je vous ai donc lu le début, à la dernière, Shirley Jackson arrive à instiller cette atmosphère inquiétante dans la description minutieuse de la vie des Blackwood. Une vie pourtant bien banale au départ. Par exemple, la descente au village de Mary. En gros, Mary va faire ses courses. C'est un acte simple de la vie quotidienne. C'est une épreuve terrible pour l'ado, enfin l'ado ou la jeune adulte, et c'est un magnifique exemple de cette tension narrative qu'arrive à maintenir tout au long du roman l'écrivain américain. Les manies de Mary, enfouissant des objets dans le jardin, accrochant en de vains talismans des objets dans les arbres, récitant étonnamment les vertus de champignons mortels ou de quelques plantes de jardin. On ne sait pas trop, est-ce une ado attardée, est-ce une jeune adulte qui se cherche, est-ce une folle complète, est-ce une jeune femme diabolique. Ainsi que le nomme sa sœur Constance, cette petite folle de Mary Cat. On sent d'ailleurs les lourds secrets entre les deux sœurs. On sent la folie dans les gestes au jour du jour de ces deux femmes, car rien semble faire pouvoir basculer dans le drame absolu et de l'autre côté du monde. C'est un récit vénéneux, envoûtant, empreint d'une magie et d'une noirceur tant dans la forme que dans le fond. C'est une pépite, en fait, que vous feriez bien de découvrir. Ou redécouvrir d'ailleurs, puisqu'en fait, ce roman a été édité la première fois en 1962, mais il n'est plus disponible depuis des décennies. En plus de sa réédition, on a droit à une retraduction, et pas de n'importe qui, de Jean-Paul Gracias, qui nous permet d'apprécier toutes les finesses et subtilités, aussi bien dans l'écriture et la construction narrative de la romancière américaine. Voilà, ça s'appelle donc « Nous avons toujours vécu au château », c'est chez Rivage Noir, et l'écrivain est Shirley Jackson.
C'est une femme, donc.
C'est une femme, oui. Ah, je t'avais laissé la parole, je pensais que tu allais la garder.
C'est une femme, là on va en écouter trois.
Ah ça y est, tu cherchais l'entraînement
voilà.
Peut-être.
Donc on va écouter un peu de musique, ces trois femmes sont les Poupini Sisters, et vont nous chanter une chanson de Noël, puisque on est bientôt à Noël. Ça s'appelle Steps Into Christmas. C'est une chanson de Bernie Taupin et Elton John, mais dans un arrangement plutôt festif. Allons-y.
Voilà, j'espère que vous avez dansé un petit peu sur cette musique.
Voilà, et que j'espère que vous aurez tous un Noël aussi joyeux que ça.
Eh bien, à qui on va souhaiter de bonnes fêtes en ce 19 décembre, c'est à Jean-Marc Lairère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette dernière émission de l'année. Et vous allez non pas nous parler d'un écrivain, mais de trois.
Eh oui, une fois n'est pas coutume, au lieu de parler d'un roman, je vais parler d'un recueil. Où on a trois grandes nouvelles écrites par trois des plus grands auteurs italiens actuels, puisque le recueil qui s'appelle Les Juges, trois histoires italiennes, rassemble un texte d'Andrea Camilleri, un de Carlo Lucarelli et un troisième de Giancarlo De Cataldo, tous les trois traduits par l'incontournable Serge Quadrupani chez Fleuve Noir. Donc, visiblement, c'était pas des nouvelles qui ont été rassemblées en Italie. Ça doit être une idée de Serge Quadrupani ou de Fleuve Noir.
Un des grands spécialistes, en dehors d'être traducteur, Serge est un grand spécialiste de la littérature italienne et du polar en particulier.
Et oui, et écrivain aussi, et directeur de collection. Et donc, il a choisi trois grandes nouvelles qui mettent en scène des juges. Alors, la première, c'est une surprise pour personne, Le Juge Soura d'Andrea Camilleri se déroule en Sicile. Elle se déroule vers la fin du 19e siècle. On va voir qu'on va voir trois époques différentes, puisque la seconde de La Gamine de Carlo Lucarelli se déroule dans les années 70 du côté de Bologne. Ça non plus, c'est pas une grande surprise, Bologne. Et la dernière, Le Triple Rêve du Procureur de Giancarlo De Cataldo.
Ça se passerait pas vers Rome?
C'est une petite ville, alors là on sait pas trop,
ah bon.
C'est moins situé. C'est une petite ville et ça se passe donc aujourd'hui ou hier on va dire, puisque on va voir. Donc la première, Le Juge Soura d'Andrea Camilleri au 19e, on a un nouveau juge qui débarque de Turin en Sicile, et le pauvre juge, il est un peu naïf. Enfin, il semble bien naïf parce qu'il connaît rien à la Sicile. Et donc, il prend tout un tas de décisions, frappées du coin du bon sens, bien entendu, mais sans s'apercevoir ou sans vouloir s'apercevoir, enfin ça on le saura pas, qu'il est en train de heurter une sorte d'association, de regroupement qui s'appelle pas encore la mafia, mais enfin qui y ressemble quand même beaucoup. Et donc, ce brave juge Soura, il reçoit plein de menaces, mais comme c'est des menaces un peu codées, un petit peu mafia, enfin, on lui tire dessus quand même, mais comme il ne lui vient pas l'idée qu'on peut lui tirer dessus, il s'en aperçoit même pas. Et donc, il continue à faire ce qu'il a à faire, honnêtement, courageusement, même pas courageusement, parce que, et alors les gens autour se disent, mais vous avez vu ce sang-froid, avec toutes les menaces qu'il reçoit, mais c'est pas possible, il est fait d'une autre pâte, cet homme-là. Et on a le doute pendant tout le temps, et finalement, en ignorant la mafia, et semble montrer Andrea Camilleri, c'est le meilleur moyen de faire comme si elle n'existait pas, ben finalement, de lui casser les pattes et de lui sortir son pouvoir. Enfin, du moins à la fin du 19e, où c'était une force naissante.
Oui, parce qu'on a connu d'autres temps où malheureusement, certains juges n'ont pas pu
pas
faire comme si elle n'existait pas.
Voilà, c'est que on le sait pas dans leur chapeau qu'on a tiré.
Mais oui.
Donc voilà, alors c'est très drôle. C'est écrit avec le style en couleur et l'humour d'Andrea Camilleri, qu'on connaît bien.
Et la gourmandise,
qui est aussi celle du juge.
Ah ouais, parce que quand il découvre les cannolis, c'est quelque chose, là. Hein.
Ah oui, c'est quelque chose. C'est vrai, c'est quelque chose. D'ailleurs, les cannolis, on les retrouve chez Giancarlo De Cataldo, je crois.
Tout à fait, oui.
Et donc voilà, donc c'est absolument délicieux. Et puis il y a une petite leçon quand même de voir ce juge qui affronte en fait ce qui est le pouvoir économique et mafieux de l'île. La deuxième nouvelle, donc La Gamine, c'est une juge très jeune. Et on se demande bien au début pourquoi ce juge très jeune qui est en charge d'enquêtes pas très sensibles sur des malversations financières de second ordre. Elle est accompagnée par un carabinier parce que c'est les années 70, quoi. Donc voilà, et ça tire de partout. Encore, on est en plein année de plomb. Et puis finalement, cette mesure de précaution, elle va s'avérer fort utile parce que elle se fait tirer dessus. Et le flic de 56 ans qui était pas si loin de la retraite, le carabinier qui était censé la protéger, qui a raté, mais qui a quand même réussi à faire en sorte qu'elle ne meure pas, il s'aperçoit vite que ce sont des gens de chez lui qui ont tenté de l'assassiner. Et donc là, on est en plein dans une nouvelle politique, un thriller politique avec service secret, extrême droite qui pas vraiment là, mais en fait pas loin, fonds secret pour financer des choses pas très avouables, voilà. Donc un tout autre ton, une autre époque, et encore un juge qui, cette fois-ci, c'est pas contre un pouvoir mafieux en tant que mafia proprement dit, mais là c'est même avec le secret d'État. Il affronte le secret d'État.
au moment d'ailleurs où il y avait certainement un des moments où il y a eu le plus d'incohérence entre le pouvoir et la mafia d'ailleurs.
Et enfin le plus, je sais pas si ça s'est beaucoup calmé depuis, mais...
Rappelez-moi les prochaines élections d'ailleurs en Italie.
Ouais,
non,
voilà,
on va peut-être pas évoquer ça.
Et alors le troisième qui se passe de nos jours à peu près, c'est en fait la chronique à travers le triple rêve du procureur, donc après trois rêves d'un procureur d'une petite ville, la chronique de l'affrontement à mort entre un procureur honnête et têtu, et incorruptible contre ben, l'homme fort de la ville qui est charmeur, énergique, charismatique, télégénique, mais il est aussi menteur, voleur, affairiste, enfin bon, toute ressemblance avec quelconque politique italien que ce soit est sans doute le pur effet du hasard.
Ça c'est très net. Hein.
Et homme politique qui s'exporte assez bien dans plein de pays du monde.
Aussi. Et donc, ben voilà, comme on passe au travers des cauchemars du procureur, justement, c'est un vrai cauchemar, cette confrontation, et c'est parfaitement amené par un prologue qui se passe dans l'enfance des deux personnages, qui se connaissent depuis l'enfance, et où un prologue qui se termine comme ça, qui donne peut-être un peu l'idée du sentiment d'impuissance de gens comme Giancarlo De Cataldo. Il dit: pendant un instant, la pensée traversa l'esprit du maître que la démocratie pouvait être une très mauvaise idée. Voilà. Et c'est très très révélateur de l'impuissance de la justice face au pouvoir de l'argent, là, en l'occurrence, qui se combine bien entendu au pouvoir politique. Et si Giancarlo De Cataldo en parle, il sait de quoi il parle, parce que c'est un juge quand même. Donc,
Et puis, bon, il a bien décrypté dans ses précédents romans toutes les accointances qu'il pouvait y avoir entre le pouvoir, les hommes politiques, la mafia.
Exactement.
C'est la seule des nouvelles qui est vraiment très dure et très noire. Parce que même dans celle de Lucarelli, il y a un peu de tendresse entre la juge et puis un des personnages.
Oui. Tandis que celle de Cataldo,
elle est vraiment...
Ouais, là, il n'y a aucun espoir, là. Il n'y a aucun espoir, sauf peut-être la dernière phrase. Et voilà, bon, ben finalement, ce recueil, c'est une très bonne idée, parce qu'on a trois textes très différents les uns des autres par le ton, par l'époque et par le lieu, mais finalement, avec une grande unité, parce que, voilà, ils décrivent la difficulté qu'il y a depuis, et ça date pas d'hier, visiblement, pour la justice de faire entendre sa voix face au pouvoir de l'argent, alors qu'il soit détenu par l'État, par des mafieux ou par des hommes d'affaires qui n'appartiennent pas à la mafia mais dont les méthodes ne sont pas très éloignées. Voilà, c'est ça qui donne la cohérence à ce recueil, qui est délicieux aussi parce qu'on est quand même en Italie. Alors même quand c'est très noir, il y a toujours des petits moments. Et voilà, il y a toujours des petits moments de plaisir. Ce ne sont pas des nouvelles scandinaves quand même, donc on ne sombre pas dans la mélancolie.
Ça, c'est voilà, sûr, on est avec Camilleri, puis c'est bien, on voyage en Italie. C'est peut-être finalement une bonne façon de découvrir la littérature noire italienne, puisque, bon, comme vous l'avez dit au départ, c'est trois des plus grands auteurs actuellement, et d'ailleurs abondamment traduits en France. Camilleri, ça fait des dizaines de romans qui sont traduits, Lucarelli, il y en a déjà pas mal, Cataldo, si je ne m'abuse, trop, quatre.
Un peu plus même.
Ouais, ben, on traduit, ouais, mais ouais. Ouais. Et donc, c'est une bonne manière d'aborder la littérature noire italienne. Et en plus, à toute époque, en tout lieu.
Voilà, exactement. Voilà. Et pour bien commencer l'année, je crois avoir vu que le prochain Montalbano sortira en janvier, comme tous les ans.
Quelle bonne nouvelle.
Qui permettra de très bien commencer l'année 2013.
Tout à fait. Ben écoutez, on va commencer par vous souhaiter de bien la finir, voilà. De bien profiter, j'espère, de quelques congés bien mérités.
Voilà, oui.
Et puis aussi. De nous découvrir plein de pépites noires pour venir nous en parler en 2013.
Voilà, bien entendu. Et puis bonne fête à tous.
Merci beaucoup, Jean-Marc.
À la prochaine.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
On va passer dans quelques instants aux informations et on se retrouve dans un petit moment.
À tout de suite.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur.